Sciences Po Aix et les étudiants des masters métiers de l'information, politique culturelle et Coris vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette quatrième saison, l'équipe a décidé de se plonger dans l'affaire Naël. Nous avons interrogé la manière dont le numérique a façonné les conséquences politiques et publiques du scandale.
Le point de départ, Éric Zemmour, c'est la mort de ce jeune homme, Naël. Vous semblez dire que c'est un prétexte, finalement, que ça n'a pas grand-chose à voir avec la mort du jeune Naël.
Écoutez, la mort d'un jeune homme, je ne vais pas vous dire que c'est réjouissant. C'est toujours triste. C'est toujours affligeant. Évidemment qu'on a toujours de la peine quand un jeune homme meurt, quel qu'il soit. Quel qu'il soit. Même si, je voudrais dire deux choses. D'abord, ce jeune homme... manifestement n'était pas un ange, comme a dit malencontreusement Kylian Mbappé. En tout cas, l'ange avait des taches sur ses ailes, puisqu'il avait, à 17 ans, déjà un casier judiciaire fort fourni.
Du coup, comme nos camarades, on va discuter autour de l'affaire Naël. Donc là, on a entendu l'opinion d'Éric Zemmour sur le meurtre d'un jeune homme de 17 ans qui a été tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Ici, on se penche un peu sur ce cas. On remarque que c'est un discours assez généralisé sur les grandes chaînes d'infos continues, comme BFM TV ou en l'occurrence CNews. Il y a donc un cadrage assez particulier de l'information sur ces chaînes, très tourné autour du discours du « eux contre nous » et du choc des civilisations. De notre côté, on s'est intéressé à d'autres cadrages médiatiques de l'affaire, dits alternatifs sur les réseaux sociaux numériques, notamment sur feu Twitter ou X, qui visaient à politiser l'affaire et les émeutes qui ont suivi. C'est le travail de médias militants qui souhaitent partager une vision du monde opposée à celle des chaînes d'infos en continu, comme CNews. C'est évidemment très politique, ce sont donc des médias que l'on pourrait qualifier de médias activistes. Et pour étudier ce phénomène, on a fait une étude de cas au travers du média Parole d'honneur.
Et donc, bienvenue dans le 9e épisode de la saison 4 de Révolution numérique présenté par Lucas, Axel et moi-même, Wadi.
Allez, jingle.
La paranoïa leur fait croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La méfiance les exciter, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on n'a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes, allumer l'incendie tout enflammé.
Mais avant de parler de parole d'honneur, eh ben on est obligé de passer par l'étape un petit peu barbante de la classique définition des termes du sujet. Mais ne vous inquiétez pas, on va essayer de rendre ça fun. Et ben du coup, pour commencer, on va vous présenter la notion de cadrage.
Robert Antman écrit que le cadrage peut s'apparenter au processus de sélection de certains aspects d'une réalité perçue et de la rendre plus saillante dans un discours, dans le but d'en véhiculer une certaine définition, une interprétation particulière, et donc de donner des recommandations d'appréhension d'une information donnée.
Eh bien écoute, merci petite voix anonyme qui vient de nous partager cette savante citation. Cette explication de Huntman, elle nous permet d'analyser l'extrait audio de Éric Zemmour, qu'on a entendu au début. Pour nous, cet extrait, c'est un exemple parfait d'un cadrage particulier et orienté de l'information. Il sélectionne des éléments qu'il considère comme les plus importants, comme le fait que Naël était âgé de 17 ans et qu'il a choisi d'enfreindre la loi en pleine conscience des risques, pour expliquer qu'il est responsable de sa mort. Ça lui permet de défendre une vision du monde où la police ne tue pas et les jeunes de banlieue sont des délinquants. C'est un paradigme dominant dans les discours de droite, considérant que les gens sont pleinement responsables de leurs actes. Et ce qu'il y a d'important à comprendre, c'est qu'il y a autant de cadrage qu'il y a de vision du monde, parce que chacun sélectionne les aspects de la réalité qu'il perçoit pour défendre ses idéaux. On peut considérer que certains cadrages sont plus dominants que d'autres parce qu'ils sont tenus tout simplement dans des médias traditionnels qui font beaucoup d'audience et dont les propos sont très repris. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. Ça joue sur la perception et l'imputabilité d'un événement. Et évidemment, à l'inverse, il y a certains cadrages qui sont minoritaires, compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles ils sont produits. Par exemple, les médias militants sur les réseaux sociaux numériques utilisent cette affaire pour dénoncer les violences policières, le racisme et ce que certains appellent le permis de tuer. Et donc, pour mettre en lumière ce que pouvait être un média militant, donc ses méthodes de travail, ses ambitions, sa lecture faite de l'affaire Naël, on a envoyé Lucas enquêter sur le terrain. On l'a littéralement envoyé au bon char.
Alors effectivement, ça a été une longue entreprise qui a été entrecoupée de rebondissements divers et variés, mais au final, on s'en est sorti et j'ai eu la chance de m'entretenir avec Mariam, donc qui est une membre du média Parole d'honneur, et c'est un média qui se décrit lui-même comme étant, je cite, « une nouvelle émission de débat politique pour un regard neuf sur l'actualité en faisant entendre la voix des quartiers et de l'immigration post-coloniale ». Et alors du coup, pour commencer, je lui ai demandé si elle considérait que Parole d'honneur était un média militant.
En plus, on est un média militant, donc nous, on s'inscrit un peu dans ça. Le fait qu'on soit un média totalement autonome, c'est-à-dire qu'on n'a aucune subvention, on a seulement les dons, Donc c'est pour ça que nous, on est presque tous bénévoles en fait à PDH, on n'a pas de salariés. Et parce que ouais, on n'a pas du tout de subvention pour garder cette autonomie politique, cette autonomie dans notre parole. Et c'est ça que les gens, ils aiment bien en fait. Parce qu'on a quelque chose qui est construit, parce qu'on vient d'un héritage politique, militant, etc. Et on arrive à garder la ligne qu'on veut garder, à tenir le discours qu'on veut tenir, et en même temps à faire des liens avec, avec le mouvement social, avec les partis politiques, avec les militants. De toute façon, nous, on vient, enfin, les militants de chez nous, ils viennent du pire. Donc, eux, ils ont beaucoup milité sur les violences policières, etc. Ils ont beaucoup aidé les collectifs à se monter, etc. C'est pour ça qu'on est proche notamment de Amal Bentounsi, qu'on avait accueilli, etc. Donc, ça, c'est des gens qui sont proches de nous. C'est des milieux militants qu'on connaît très bien et dans lesquels on s'en sert parfaitement.
Je reprends le micro quelques secondes parce que ce que vient de dire Mariam, c'est hyper intéressant et ça va nous permettre d'expliquer ce qu'on entend quand on parle de médias militants et de médiactivisme. Alors, le médiactivisme, c'est un concept de Dominique Cardon et Fabien Grandjean, développé dans l'ouvrage qui s'appelle « Médiactiviste ». Donc on a des médias alternatifs qui sont des productions militantes d'information. Et ces médias, ils représentent une œuvre appropriable par n'importe qui, le but étant de faire société par le bas, c'est-à-dire en partant des individus, et ça va augmenter leur capacité d'action. On parle alors de médiactivisme. Et donc selon eux, l'objectif c'est une reprise en main par la société civile du pouvoir de s'exprimer face aux grandes institutions et aux médias qu'ils considèrent comme traditionnels. Le médiactivisme peut prendre plusieurs formes, qu'on évoquera plus tard, donc stay tuned, et tout ça en adoptant une posture contre-hégémonique ou expressiviste. Et donc typiquement pour Parole d'honneur, ça passe notamment par l'utilisation de Twitch et Twitter. D'ailleurs, ces derniers temps, leurs chiffres ont explosé car il y a une grosse demande.
Ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'en ai profité pour demander à Mariam donc, quelle était la stratégie militante du média Parole d'honneur sur l'affaire Naël.
Donc notre lecture de l'affaire Naël, c'est une affaire de violence policière. Ça s'inscrit dans la lutte contre les violences policières, notamment par rapport au refus d'obtempérer. Donc, faut savoir qu'en France, on est un des pays européens avec le plus de morts suite à des refus d'obtempérer. Je crois qu'il y en a eu une quinzaine, je crois, en 2023. Et donc, par exemple, Amal Bentounsi, elle porte la lutte pour l'abrogation de la loi dite Cazeneuve, la loi de 2017, qu'elle renomme le permis de tuer. Voilà, en fait, qui autorise les policiers à tirer dans le cas d'un refus d'obtempérer, notamment. Donc voilà, nous, on s'inscrit par rapport à ça.
Donc, avec cet extrait, on comprend bien que le média, eh bien, il est en lien avec de nombreuses organisations militantes dans les quartiers, notamment qui sont en lien avec tout ce qui est en rapport avec les luttes contre les violences policières. Et par exemple, dans leur émission donc sur Twitch qui est intitulée « Les émeutes, c'est politique », eh bien, le média va donner la parole à Amal Bentounsi, dont l'activité militante principale, eh bien, c'est de demander l'abrogation de la loi Cazeneuve, dont on va parler plus tard, et qui, en gros, lutte contre les violences policières.
On ne nous entend pas, encore une fois, et notamment sur l'article L435-1, l'alinéa 4. Donc, bien évidemment, qu'aujourd'hui, que dit-il ? Alors, ça donne la possibilité aux policiers, donc c'est l'usage des armes à feu qui a changé depuis 2017. Il faut savoir qu'avant 2017, les policiers ne pouvaient pas tirer sur une voiture qui prenait la fuite. Seuls les gendarmes avaient le droit. Malheureusement, depuis 2017, le nombre de morts a changé. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, nous, familles de victimes, c'est qu'on abroge cette loi. L'alinéa 4, c'est un article qui est problématique. La seule mesure qui pourrait calmer la situation, c'est d'abroger cette loi et d'abroger l'alinéa 4.
Alors du coup, avec cet extrait, eh bien, on comprend bien quelle est leur lecture du meurtre de Naël et comment cette même lecture, eh bien, elle s'inscrit dans leur démarche militante contre les violences policières. Mais elle m'a également expliqué après quelle était leur interprétation des émeutes qui ont suivi cet événement. Et leur interprétation, elle tranche fortement avec celle des médias traditionnels, dans le style de CNews par exemple, qui avaient tendance à dépolitiser les émeutes en expliquant que c'était principalement des délinquants en fait qui profitaient de la situation pour foutre le chaos et qui n'avaient pas de revendications politiques particulières.
Ah, et par rapport aux émeutes, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, nous, peut-être qu'on apporte quelque chose d'un peu différent par rapport au reste du champ politique, notamment à l'extrême gauche, c'est que les émeutes, voilà, nous, on avait appelé l'émission « Les émeutes, c'est politique ». C'est-à-dire que les émeutes, pour nous, il y a un côté triste dans le sens où c'est le résultat du manque d'organisation dans les quartiers populaires ou peu importe, ou de l'antiracisme politique qui fait que le canal d'expression, ce soit la violence, ce soit les émeutes, etc. Non, c'est pas la révolution, ça, c'est un grand désespoir, en fait, les émeutes. C'est un grand désespoir. Mais en même temps, c'est quelque chose qui remet radicalement en question l'ordre policier, le racisme, les violences policières, etc. Donc voilà, je me rappelle très bien que sur les chaînes d'info, certains voulaient, comment dire, sous-estimer le côté politique de ces révoltes, dire de ces émeutes, voilà, dire non, mais ils savent pas pourquoi ils font ça, c'est de la violence comme ça, etc. Donc nous, on dit non, 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 c'est pas un hasard si les émeutes, elles interviennent après la mort de Nahel. C'est pas un hasard si les émeutes de 2005 sont arrivées après la mort de Zyed et Bouna. C'est pas un hasard, même si c'est pas clairement revendiqué avec un programme, avec des revendications, c'est pas du tout un hasard, quoi.
Donc là, on a clairement vu que Parole d'honneur propose un cadrage qui est alternatif de l'affaire Nahel et qui est en totale opposition avec celui de Zemmour qu'on a entendu au début. Ils revendiquent, selon eux, un cadrage qui est décolonial et antiraciste. De plus, Mariam et le média Parole d'honneur, ils assument complètement que ce média, eh bien, c'est le résultat d'une véritable stratégie politique qui est adaptée au contexte actuel. C'est-à-dire, selon eux, une période de forte pression de l'État sur les associations antiracistes. Elles citent notamment le collectif contre l'islamophobie en France. Et cette forte pression, eh bien, ça a forcé certains acteurs du Parti des indigènes de la République à rejoindre ce média pour y continuer leur action militante. Et donc là, on a bien un exemple concret d'un média qui est ouvertement militant sur les réseaux sociaux et qui fait donc du médiactivisme.
Et on prépare le terrain pour la suite, en fait, je pense. Voilà. Est-ce que après, ça veut dire qu'il y aura un parti politique? Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, la stratégie, c'est celle-ci. C'est le média, c'est l'outil qu'on a pour l'instant. Mais c'est plus le fait du contexte. C'est pas parce que c'est notre kiff d'avoir un média et qu'on veut pas faire de, on peut pas et qu'on veut pas faire de politique. C'est pas ça. Hein. C'est juste qu'on a été contraint d'avoir plus que cet outil-là, en fait.
Il y a le feu dans le studio, je continue.
On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle ça justice, c'est un des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs.
C'était Orelsan avec l'odeur de l'essence, et nous, on retourne au développement. Et donc pour filer notre analyse, on a renvoyé Lucas, notre envoyé spécial, sur un autre terrain. C'est un média plus petit, un média étudiant qui est géré par les élèves de l'académie de l'ESJ Lille, qui fait également un travail militant, c'est le Troisième Œil Média. Alors le Troisième Œil, c'est un média présent sur internet, qui a notamment publié un article sur le conflit au Haut-Karabakh en septembre 2023. Pour nous, c'est un sujet qui peut être mis en relation avec l'affaire Nahel, parce qu'elles ont toutes les deux permis la profusion d'un certain discours réhabilitant la théorie de Samuel Huntington du choc des civilisations. En effet, on a d'un côté des Arméniens chrétiens versus des musulmans azéris au Haut-Karabakh, et de l'autre côté, on a dans les médias français l'imaginaire des jeunes arabes de banlieue versus les policiers qui défendent la France profonde blanche pendant les émeutes. Donc le procédé est à peu près similaire.
L'instrumentalisation du traumatisme arménien, c'est un phénomène qui voilà, existe depuis à peu près le début des persécutions, et elle a été flagrante en fait en septembre, dans la dissolution de l'Artsakh. Et généralement, en fait, c'est l'extrême droite qui se base sur la théorie de Samuel Huntington du choc des civilisations et qui joue, en fait, de cet imaginaire des croisades. Ce qu'on entend beaucoup, c'est l'opposition de l'Europe chrétienne au monde musulman. Notamment, il y a Éric Zemmour qui parle d'une guerre des civilisations. Et cette récupération, du coup, elle n'est pas nouvelle, mais le côté marquant cette fois-ci, c'est en fait c'est que la droite, habituellement plus modérée, ou du moins plus modérée dans ses propos, elle s'est aussi prêtée au jeu de la guerre imaginaire en la transposant en France, en surfant sur cette vague islamophobe, et elle a collé cette étiquette du « regardez, voilà ce qui va nous arriver ». Pour écrire ce genre d'article de décryptage du traitement médiatique, en général, ce qui manque sur les plateaux télé ou dans les articles, c'est des paroles d'experts, donc de personnes dont le métier est d'étudier le sujet sous tous ses aspects. Donc le premier réflexe à avoir, c'est de remettre les faits et remettre l'information au cœur du sujet, ce qui devrait en fait inévitablement passer par interroger des historiens, des chercheurs ou des sociologues. Voilà, donc ça c'est le premier réflexe à avoir. Et après, à partir de là, il faut tirer le fil en fonction du décalage entre la parole des experts et ce qu'on entend dans les médias destinés au grand public. Et c'est souvent là que ça arrive, qu'il y a un grand fossé, voilà, un vide d'information qui laisse malheureusement toute sa place à l'interprétation politique, voire la désinformation. Donc, en termes d'experts, j'ai eu la chance d'échanger avec le directeur de la bibliothèque Nubar, Boris Adjemian. Donc, c'est un historien spécialiste de la diaspora arménienne qui m'a affirmé que cette récupération, en plus d'entacher le deuil arménien, était dangereuse. Selon lui, c'était le meilleur moyen d'attirer des ennuyeux arméniens et il a bien souligné que c'est en les résumant à leur religion, la droite les a représentés comme un rempart de l'Occident contre l'islam.
Là, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même assez mémorable. Alors, Internet, c'est vraiment une merveilleuse invention parce que ça donne la possibilité à des individus qui sont complètement dépourvus en fait, de capitaux médiatiques, comme Lisa en l'occurrence, mais Mariam, c'est exactement pareil, eh bien, de contredire le discours de personnalités médiatiques majeures, comme bah, Zemmour qu'on a entendu en début, et tout ça en impliquant bah, une méthodologie qui est quasiment professionnelle, en fait, où il y a des chercheurs qui sont mobilisés, etc. Et donc, les deux exemples qu'on a pris, en fait, c'est deux petits et moyens médias qui font un travail militant et qui recadrent des affaires qui sont souvent caractérisées bah, en fait, par des rapports de force, notamment entre blancs et racisés, entre chrétiens et musulmans, mais également entre bah, pauvres et riches. Donc au final, ces deux médias, ils formulent ce qu'appellent donc Dominique Cardon et Fabien Grandjean dans leur livre sur le médiactivisme, une critique qui est contre-hégémonique. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour eux, les médias militants, ils s'attachent à mettre en lumière les médias dominants comme des vecteurs de propagande des pouvoirs économiques et politiques, et en plus, ils font l'effort de créer des contre-pouvoirs critiques. Ici, les deux médias qu'on a, eh bien, ils critiquent la vision qui est dépolitisante et à caractère islamophobe qui est tenue dans les médias dominants. Cette critique, elle rend responsable les médias de reproduire sans réserve les discours des gouvernants, de participer à la production d'une pensée unique et de marginaliser les propositions alternatives.
Dominique Cardon et Fabien Grandjean affirment que le contre-modèle d'information opposé aux dérives des médias dominants est lui-même empreint des exigences du travail scientifique, référence au modèle de l'exactitude, distanciation maximale, temps long de l'investigation, rupture avec les formats courts et les formules, et faible intégration du lecteur dans les préoccupations du rédacteur.
Gamberge cette petite voix. Bon, bref, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, eh bien, c'est ce que font les médias dont on a parlé. Et en un sens, ils participent à la critique des discours hégémoniques en se constituant en contre-pouvoir afin de repenser les relations entre dominants et dominés.
Écoute, je n'aime pas te faire la morale, mais je vais te donner un conseil qui te servira à jamais.
Et pour finir, dans ce registre-là, eh bien, je suis obligé de continuer de donner de la force à un film incroyable qui s'appelle Little Palestine, journal d'un siège de Abdallah al-Khatib. C'est donc un documentaire qui montre la vie des réfugiés palestiniens du camp de Yarmouk. C'est le plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde, qui se trouve en banlieue de Damas, en Syrie. Donc en 2013, ils vont subir un violent blocus militaire de la part du gouvernement Assad. Ici, le jeune homme qui possède un capital économique et social plutôt restreint, eh bien, il va se saisir d'une caméra, il va proposer un cadrage politique de la situation humanitaire désastreuse dans le camp. Selon le réalisateur, le meilleur moyen de politiser et de publiciser une cause, c'est de montrer la vie des gens, la vraie vie, ses conditions difficiles et les espoirs qui en découlent. Donc ce film vise à toucher et scandaliser le spectateur afin de médiatiser une cause qu'il juge juste. Ce film peut s'apparenter donc à ce que Dominique Cardon et Fabien Grandjean appellent la critique expressiviste dans leur livre Médiactiviste. Elle consiste à insister davantage sur la production comme un instrument de libération et d'émancipation, plutôt que comme un moyen de lutter contre la reproduction de la domination symbolique. Donc là, face à la tendance monopolistique dans l'espace médiatique, la critique expressiviste vise à instaurer des dispositifs de prise de parole plus ouverts. Donc là, en l'occurrence, le documentaire est un dispositif de prise de parole plus ouvert.
Soit dit en passant, je prends le micro une dernière fois pour vous dire que c'est un film sublime, et surtout qu'il est gratuit sur YouTube, donc vous n'avez aucune excuse, foncez le voir les gars.
Bon, il est temps de vous lâcher, on espère que c'était intéressant et compréhensible, et surtout que vous avez pris des notes. Pour que vous reteniez tout ça, on va vous rappeler les principaux points. Les chaînes d'infos en continu relaient de nombreux discours manichéens à base de « eux contre nous ». Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cadrage, donc la sélection de certains éléments du réel perçu par chacun. On en profite aussi pour vous rappeler les fondamentaux. Cet effet a un impact sur l'effet d'amorçage, c'est-à-dire la manière dont l'info influence certaines situations sociales et politiques. Enfin, le cadrage médiatique a un impact sur encore un autre effet, celui d'agenda, c'est-à-dire la manière dont on hiérarchise l'importance des enjeux dans l'agenda public. Sur les réseaux sociaux numériques, il existe des entités qui proposent un cadrage alternatif de ces affaires, qui revendiquent le fait de produire une info militante et qui cherchent à diffuser la parole d'experts que l'on voit moins souvent sur les plateaux télé. Ce sont les médias militants. Donc les membres de ces médias utilisent les réseaux sociaux numériques comme une plateforme pour diffuser leur vision du monde contre celle proposée par les médias dominants auxquels ils n'ont pas accès. Ils font en quelque sorte une contre-propagande, c'est ce qu'on appelle le médiactivisme. Maintenant, tout est noté, bon courage et merci de nous avoir écoutés.
Mais avant de vous quitter complètement, eh bien, je vais essayer de vous donner envie d'aller voir le dernier épisode, c'est un épisode bonus, qui a pour sujet le portage des banlieues au cinéma, et qui tente d'expliquer l'aspect prophétique du film Athéna, qui selon beaucoup aurait prédit les émeutes.